écoute.
Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a de l'écho, non? Ça marche? Parfait.
Ça marche.
Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, écoutez, moi, je vais être très rapide. D'abord, je vous remercie de m'accueillir dans votre groupe de travail, dans cette séance inaugurale pour cette organisation d'un colloque. N'ayant pas eu l'occasion de travailler précédemment avec nombre d'entre vous, j'espère que ce que je vous apporterai n'apparaîtra pas trop comme des truismes. Il y en a un certain nombre, enfin, je vais essayer de me limiter. Moi, j'ai essayé de penser un petit peu les choses en historien. Et donc, je vais vous parler non pas du futur, mais plutôt du passé. Donc, je vais m'inscrire dans cette dimension-là. En fait, ce qui me semble, donc en réfléchissant un petit peu à ce propos, histoire des relations entre ville et nature, tel qu'il avait été formulé au début, il me semble que ce n'est pas véritablement un sujet qui a été directement traité en ces termes par les historiens, qui s'intéressent, disons, davantage, ou qui se sont intéressés, mais on va voir que peut-être pas de façon suffisamment approfondie à mon sens, ou en tout cas pas tous, aux relations qu'entretenaient les communautés urbaines, et je les appellerai pour faire vite les citadins, les individus, les citadins, avec la nature qui peut être pris au sens très large, aussi bien l'environnement rural, et que tout ce qui peut être naturel, toute une forme de la nature, et notamment le végétal et l'animal, en ville. Alors, je dis aussi que dans mon propos, donc je me limiterai à ce qui peut être l'Ancien Régime, ce qui est décrit comme étant l'Ancien Régime, c'est-à-dire pour faire vite le Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'époque moderne. Je laisse de côté délibérément les villes antiques qui sont peut-être d'une autre nature et je m'arrêterai au XIXe siècle à partir du moment où, avec la révolution industrielle et la croissance urbaine, eh bien, l'apparence et la nature de la ville connaît de profonds changements. Mais ça, tout ça vous est familier. Donc, je m'attarderai aussi plus facilement sur les villes médiévales parce qu'elles me sont plus familières, et peut-être aussi parce que je considère, mais parce que je suis médiéviste, qu'elles sont quelque part les matrices des formes urbaines jusqu'au XIXe siècle. Alors mon propos est assez simple, je vais d'abord considérer un petit peu ces relations entre les citadins, les communautés urbaines, et un petit peu ce qui se passe à l'extérieur des remparts, parce que je crois que finalement, ce qui décrit peut-être plus simplement la ville médiévale, pour faire vite, c'est le fait qu'elles sont pour nombre d'entre elles, si ce n'est leur majorité, enclos dans une enceinte et qu'il y a une distinction qui se construit entre un espace intérieur et un espace extérieur. Et même si cet espace n'est pas, cette délimitation n'est pas infranchissable, loin s'en faut, et qu'il y a une porosité, à mon avis, assez claire entre ce qui est espace à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Alors d'abord, ce qui se passe peut-être à l'extérieur. D'abord pour remarquer, parce que et c'est là peut-être que ce sont des choses que je voudrais rappeler mais qui vous sont, j'imagine, connues, que eh bien, les citadins dans ces villes d'Ancien Régime entretenaient des relations étroites avec ce qui se passe au-delà des remparts, une relation qui est même constante avec d'abord le monde rural, la campagne, d'abord parce qu'une grande partie de ce qui est nécessaire à la ville et notamment pour son alimentation, se trouve à la campagne. C'est à commencer par tout ce qui relève des grains, mais aussi des produits qui sont nécessaires, de la vigne par exemple, ou d'autres aliments. Et que ces relations, elles sont médiatisées par des acteurs qui sont notamment les ruraux, il ne faut jamais l'oublier, qui sont assez nombreux à venir en ville, à participer notamment au marché du citadin, ou bien des habitants de la ville, des urbains, qui vont eux-mêmes chercher ces produits et qui les ramènent de la campagne. Et donc qui créent des liens qui sont finalement pour une partie de la population assez communs, assez étroits. Et je pense notamment à des catégories d'individus qui sont essentielles pour ces villes d'Ancien Régime, comme par exemple les bouchers, les poissonniers, qui ont effectivement un pied dedans et quelque part un pied dehors. Mais c'est aussi, pas simplement pour nombre des acteurs, mais pour une catégorie un peu plus étroite, que sont par exemple les individus qui, catégorie plutôt plus large avant d'en venir aux activités étroites, des individus qui travaillaient durablement ou occasionnellement à la campagne. Je crois qu'il ne faut pas oublier que dans les villes médiévales et dans les villes d'Ancien Régime, une partie des habitants vivent en fait d'activités qu'on peut qualifier d'activité rurale ou campagnarde. C'est notamment le cas des journaliers qui résident en ville, mais qui tous les jours quittent par exemple la ville pour aller travailler dans les champs. On les connaît, on les a étudiés pour nous, pour quelques-uns d'entre eux, notamment je pense tout particulièrement à un travail de Sandro Stella sur les vignerons qui travaillent dans les campagnes autour d'Auxerre et qui résident régulièrement dans la ville. Alors, autre groupe à côté des journaliers, il y a ceux donc, qui sont plus communs, ceux peut-être qui sont les plus riches, qui possédaient des propriétés à la campagne et qui tiraient même une partie de leurs revenus de la terre. Et à commencer, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, par les établissements ecclésiastiques, dont le nombre est très important dans ces villes d'Ancien Régime, et qui vivent d'une partie de la rente foncière, de la rente campagnarde, mais aussi des laïcs, à commencer par les seigneurs. Les seigneurs qui, à partir du XIIIe siècle, cette catégorie bien singulière du monde d'Ancien Régime, eh bien, qui viennent s'installer en ville tout en conservant des liens étroits avec leur résidence campagnarde, avec leur seigneurie, leur château, lorsqu'ils y sont. Et puis, tout un ensemble d'individus que sont les bourgeois, qu'on qualifie des bourgeois, des habitants de la ville enrichis, qui possèdent eux aussi des propriétés agricoles, plus ou moins étendues, qui n'ont, pour certaines qui confinent presque à sa seigneurie, pour d'autres qui relèvent plus d'exploitation rurale plus classique, agricole plus classique, qui sont plus ou moins étendues, mais dont le nombre est suffisamment important à l'extérieur des villes pour construire un espace qui est en partie géré par les urbains, et je pense notamment à ces espaces périphériques aux agglomérations urbaines dans les villes d'Italie qu'on appelle le contado ou les contadi, et qui manifestent cette relation étroite entre la ville et la campagne. Alors, c'est pas simplement l'Italie, le phénomène est commun à toute l'Europe, mais disons qu'en Italie encore, si je peux y revenir, à partir de la Renaissance, il a donné naissance à une pratique qui me semble importante pour ces relations ville-campagne aussi, même si elle concerne qu'une très petite partie de la société urbaine, qu'on appelle la villégiature, le fait d'aller passer une partie de l'année à l'extérieur de la ville, à la campagne, et qui n'est pas sans conséquence sur les activités urbaines, hein, puisque pendant un certain nombre de mois de l'année, eh bien, ceux qu'on considère traditionnellement comme des habitants de la ville ne s'y trouvent pas. Je prendrai qu'un petit exemple, peut-être anecdotique, mais enfin, si vous connaissez la Scala de Milan, eh bien, sachez que la saison de la Scala de Milan commence au mois de décembre seulement, justement à partir du moment où les grands aristocrates de la ville de Milan sont de nouveau de retour en ville pour y vivre pendant les mois d'hiver avant de repartir à la campagne à partir de la saison des moissons jusqu'à la chasse. Alors, cette présence des citadins à la campagne concerne aussi la proximité des villes, puisque finalement, on a tout un hinterland urbain qui est extrêmement important pour les citadins. D'abord parce qu'un certain nombre de citadins disposent de résidences à l'extérieur de l'enceinte, pas aussi éloignées peut-être celles que j'ai décrites précédemment, à proximité des remparts, dans un rayon modeste. Et il faut bien regarder que ces résidences, leur nombre se multiplie à partir de la fin du Moyen-Âge et tout au long de l'époque moderne. Et j'ai tendance à penser, mais là c'est peut-être ma méconnaissance, que finalement on connaît mal l'importance de ces habitats de périphérie urbaine, véritablement possédés et contrôlés par des habitants des villes, ces gentilhommières qui sont pas totalement des résidences de villégiature ou des seigneuries, mais qui ne sont pas non plus des résidences urbaines, qui s'inscrivent un peu dans cet entre-deux, mais dont le rôle est probablement important, et notamment important pour ces relations entre la nature et les citadins. Hein, notamment, je ne sais pas comment on les utilisait véritablement, et je pense que c'est un domaine d'étude qui pourrait être extrêmement utile dans les années qui viennent. Alors, à côté de ces résidences, il y a aussi, ça vous le connaissez évidemment, des jardins, des vergers, des maraîchers, auxquels s'ajoutent aussi des prairies d'embouche. Bref, tout un paysage des abords urbains qui est effectivement encore à explorer et qui constitue pour les citadins un environnement naturel familier. De même que sont familiers pour les citadins, eh bien, tout un ensemble de bois, de rivières, les berges des rivières, les ports, qui entourent les villes ou qui parfois même sont à l'intérieur, pour les ports en tout cas, à l'intérieur des villes. Et ces bois, je crois qu'il faut jamais oublier qu'ils sont bien souvent l'objet d'une très grande attention par des autorités urbaines parce qu'ils sont extrêmement importants pour tout ce qui concerne la consommation en bois et les besoins énergétiques et qui constituent souvent des réserves à usage communautaire. Et donc se situe à la périphérie de nombre de ces villes médiévales et même modernes, des forêts ou des bois qui ont été étroitement contrôlés par les villes et qui sont familiers aux citadins. Alors là, il y a quelques travaux qui ont été réalisés sur ces forêts urbaines, en quelque sorte, et je pense tout particulièrement à des travaux qui ont été réalisés pour la ville de Sienne, toujours en Toscane, où on voit bien qu'à une vingtaine de kilomètres à peine de la ville, eh bien, la projection des citadins s'y réalise aisément. Donc, un paysage rural, un paysage de campagne, plus que véritablement rural, et qui a été finalement esquissé par les historiens, mais qui mériterait peut-être d'être approfondi. Alors maintenant, si je m'installe en ville, bon, j'avais un PowerPoint, je ne sais pas si je vais peut-être essayer de vous le montrer, voir si j'y arriverai, si je vais y arriver. Non, c'est pas ça. Je vais faire. Parce que la personne, peut-être le livre, comment on peut faire?
C'est avec l'écran partagé qui se trouve en bas.
Et je partage l'écran et je vous mets l'image. Donc celui qui peut-être... Est-ce que vous voyez l'image? Ça va?
On voit votre... Ça arrive.
Voilà, ça arrive. Donc la personne qui peut-être a le plus étudié pour, en tout cas le Moyen Âge, cette relation entre la ville et la campagne environnante et même la présence de la nature dans la ville, c'est certainement ce livre de Jean-Pierre Le Guy. Alors, deuxième chose maintenant, et j'en viens et je vais aller beaucoup plus vite parce que ça vous est peut-être plus familier et on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus amplement. La nature, puis à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de la ville, on y trouve aussi évidemment une nature qui est plus, on va dire, domestiquée, en tout cas plus étroitement encore contrôlée par les citadins, avec d'abord tout un ensemble de jardins, et je pense qu'ici, il n'y a personne plus qualifié que moi pour en parler, du jardin qui est nécessaire aux productions, l'hortus traditionnel, aux abords des habitations et qui est parfois très étroit et très intensément exploité, jusqu'au jardin d'agrément qui se trouve articulé de plus en plus à partir de la fin du Moyen Âge avec des hôtels particuliers, donc des résidences qui sont de nature différente peut-être que celles qu'on pouvait voir dans les sites urbains précédemment. Et puis, on a même parfois des véritables champs qui sont installés à l'intérieur des villes, qui notamment occupent des espaces dans certaines villes médiévales. Et là, je me permets de montrer une image de Florence, une image de la fin du XVe siècle, qui laisse bien entrevoir qu'à l'intérieur de l'enceinte, il existe des espaces qui ne sont pas véritablement des jardins, mais qu'on peut considérer comme des espaces de champs qui sont assez nombreux, puisque on a pour la fin du Moyen Âge et qui demeure encore jusqu'au presque au XVIe siècle, le fait qu'on a construit, vous le savez sans doute, avant la peste noire, de très grandes, de très ambitieuses enceintes dans nombre de villes d'Occident, et que en raison de la peste, eh bien, l'occupation de ces espaces n'a jamais été véritablement réalisée avant même, parfois le XIXe siècle. Et si je vous montre l'image de Florence, et si vous connaissez la ville de Florence, je me permets de rappeler qu'encore de nos jours, actuellement, dans cette immense cité, hein, plus de 500 000 habitants facilement, eh bien, vous avez dans la partie centrale une enceinte et des champs qui sont toujours accessibles à l'intérieur de cette enceinte qui contient actuellement des oliviers. Alors, ça, je l'ai pris pour le cas de Florence, mais enfin bon, je me suis permis de vous montrer aussi, de mettre ici le cas de la ville de Tours, hein, l'enceinte médiévale, au-delà de l'enceinte médiévale ici, et avant l'enceinte construite à l'époque moderne, eh bien, tout un espace aussi qui est effectivement occupé par des jardins, ou voire même des plantations plus nombreuses. Et puis, j'y ajoute aussi, pour compléter, mais c'est peut-être pas facile, des parcs, des propriétés avec des très grands jardins qui concernent des remaniements de parcelles avec des créations d'hôtels qui sont parfois plus amples et l'apparition même dans certaines de ces villes de jardins botaniques, de jardins qui sont dédiés et à des activités qui étaient autrefois liées aux besoins des hôpitaux. Enfin, des espaces aussi qui sont gagnés à la toute fin de l'époque moderne sur les remparts qui sont abattus, des promenades, des espaces publics, des lieux convertis dans ces anciens remparts et qui donnent naissance à ces boulevards qui sont souvent eux-mêmes des lieux où on y plante notamment des arbres. Donc là, je vais très vite parce que c'est des choses qui vous sont certainement plus familières qu'à moi, mais qui ouvrent aussi sur des perspectives sur cette idée que finalement on a des villes d'ancien régime dans lesquelles finalement la nature est assez présente. Alors la nature est aussi assez présente pour donc d'autres villes, notamment là je voulais... cette nature présente dans des villes d'enceinte, je voulais vous le montrer parce que je pense que c'est quand même pour moi assez paradigmatique, la ville de Rome, hein, dont l'enceinte d'Aurélien, qui date du 3e siècle après Jésus-Christ, à partir de l'époque, à la fin de l'Empire, elle est, une partie de la ville est désertée et vous le voyez ici par cette densité encore à l'époque moderne, ce qui constitue l'habitat à l'intérieur de cette ville, c'est simplement une partie très centrale, et qui donne naissance à ces paysages si singuliers qui sont assez connus dans ces vues du XVIIIe siècle. Alors, autre chose aussi, ce qui peut entraîner ces espaces qui sont rebâtis ou abandonnés et réutilisés, eh bien, ce sont les guerres, les destructions, et avec le gain dans ces espaces-là de la végétation pour des durées qui sont parfois assez longues. Hein. Faut pas imaginer, là, je viens de vous le montrer pour Rome, ça se joue sur plusieurs siècles. Hein. Toute la fin du Moyen-Âge, il faut imaginer que toute la fin du Moyen-Âge, alors qu'on vit dans cette ville de Rome, dans cette enceinte, eh bien, on n'en occupe qu'une très petite partie, à dire la vérité. Alors, dernière chose, eh bien, c'est aussi les villes, les endroits où se trouvent pas simplement de la végétation, mais aussi des animaux et parfois des animaux sauvages. J'aurais envie de parler d'abord des animaux domestiques. Il ne faut jamais oublier que dans ces villes médiévales et dans ces villes d'anciens régimes, eh bien, il y a de très nombreux animaux qui ont fait l'objet, alors là je vous cite, la bibliographie est un peu plus ample sur le rôle dans ces espaces, je cite les travaux de Madame Corinne Beck hein, sur le rôle des animaux, pas simplement en ville mais des conceptions de la nature et du rôle et de la place des animaux dans les sociétés anciennes qui fait l'objet de ces travaux depuis de nombreuses années. Animaux qui sont...
Peut-être 2 minutes si possible.
Tout à fait. Merci. J'en mettrai pas plus. Voilà. Bon, je voulais simplement évoquer aussi les parasites, mais je l'évoque juste. Et puis, peut-être aussi prendre en considération pour ces villes anciennes les conditions climatiques, l'évolution des conditions climatiques. Les villes du Moyen-Âge connaissent le petit âge glaciaire, la toute fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, et avec peut-être la présence dans ce contexte-là d'animaux qui sont plus proches, notamment je pense, parce que justement l'article de Corinne Beck y faisait référence, à un certain nombre d'animaux comme les loups par exemple, qu'on voit aux portes des villes à la fin du Moyen-Âge. Enfin, des animaux qui sont aussi cette nature dangereuse, et je voudrais juste terminer en évoquant le livre de Michel Pastoureau, Un roi tué par un cochon, qui va peut-être un petit peu ici faire ma conclusion, puisqu'il rappelle qu'au XIIe siècle, l'héritier du roi de France est meurt d'une chute de cheval causée par un cochon et qui, comme vous voyez sur cette enluminure reprise sur la couverture, passe sous ses jambes. Et par conséquent, la conséquence qui est toujours annoncée de cette mort brutale de l'héritier, c'est qu'on se met à paver les rues de la ville de Paris, hein, que c'est le début d'une organisation plus poussée de la ville de Paris. Donc, je termine en disant qu'il y a une grande proximité donc, entre les citadins et la nature, mais je voudrais aussi conclure en évoquant l'existence de villes certes rares, mais tout à l'heure Denis l'a évoqué, qui vivent une relation étroite avec les ressources naturelles, non seulement des villes comme par exemple les villes minières ou les villes thermales, qui sont peu nombreuses au Moyen-Âge et à l'époque moderne, mais qui tout de même, à mon avis, mériteraient d'être mieux considéré parce que, justement, en raison des destructions, par exemple, pour l'exploitation minière, ou au contraire, l'occupation pour les sources thermales, eh bien, d'un espace qui est, dans lequel il y a une forme de nature domestiquée qui est assez importante. Voilà. Je suis désolé, j'espère ne pas avoir été trop long et vous avoir apporté quelques éléments. Merci de votre attention, en tout cas.
Merci Didier pour cette intéressante intervention.